vous êtes tous geeks, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons deux membres du Parti Pirate. Il s'agit de Damien Clauzel et de Bastien Arnett. Damien, Bastien, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Damien, vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des interactions humaines. Bastien, vous êtes étudiant en informatique. Vive les clichés, hein. Il n'y a que les gens qui font des sciences dures qui font partie des pirates.
Ah oui, aujourd'hui, nous avons une délégation d'informaticiens. Nos autres membres sont ailleurs.
Et puis, vous avez les cheveux longs.
Oui, je suis barbu.
Et j'allais demander si vous étiez rôliste aussi.
Tout à fait.
Ah voilà, bon, mais c'est pas grave, tout le monde a le droit d'avoir bon goût. Non, et surtout aujourd'hui, on rigole, mais on va parler de politique. J'ai envie de vous dire, c'est le tic verbal habituel de l'émission, que les politiques de l'UMP ont refusé toute invitation dans cette émission pour venir parler d'Adopi ou de l'Opsi, que la porte est toujours ouverte. Venez nous expliquer ces lois, s'il vous plaît. Venez nous expliquer votre manière de voir. C'était le premier message. Le message avec vous, c'est que conscient que les politiques aujourd'hui, étant un petit peu vieux, sont un petit peu souvent à côté de la plaque en matière d'informatique, vous avez décidé vous-même de prendre parti à la vie politique d'une certaine manière. Expliquez-nous.
Prendre parti à la vie politique, oui, c'est le but du Parti Pirate. Il s'inscrit dans la mouvance des partis pirates internationaux qui ont commencé en Suède il y a de cela à peu près une dizaine d'années. Donc le mouvement a commencé en Suède en répression à la chasse aux pirates tels que le définissent les majors. Le mouvement a pris une ampleur politique et le mouvement s'est prolongé dans toute l'Europe pour devenir des entités politiques nationales qui sont regroupées dans un grand ensemble, le Parti Pirate International. Donc, à ce titre, nous sommes le premier vrai parti européen et international. Les Verts sont plus organisés dans une sorte de coalition fédération souple, alors que nous sommes vraiment une grande entité qui a des instances nationales.
Et qui a des élus, puisque le Parti Pirate suédois a deux élus à l'Assemblée européenne.
Oui, tout à fait. Et nous avons aussi des élus en Allemagne, nous avons des élus en Suède, nous en avons en Italie, enfin, il y en a un peu partout. On en trouve régulièrement, la liste est sur Internet au niveau du Parti Pirate International. Donc, on va essayer de faire la même chose en France.
Alors c'est la blague qu'on fait habituellement dans cette émission, qu'on a refait il y a quelques semaines avec Yves Kemener, un pirate, enfin plutôt un hacker qui a participé à l'aide en Égypte et en Tunisie. La blague sur le Parti Pirate, c'est que le pirate français, Parti Pirate français aujourd'hui, c'est pas vraiment ça.
Pas vraiment ça. Notre meilleur score, c'était 2,08% à une élection municipale. Ensuite, il faut voir qu'il y a des questions socioculturelles. En France, on n'a pas vraiment une culture politique de représentation et d'élection. Alors que si on regarde dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, les gens sont beaucoup plus syndiqués, sont beaucoup plus politisés. C'est la même chose dans les pays du Nord. Donc, il y a aussi des aspects culturels qu'on peut pas nier. Il y a aussi des aspects historiques. En France, la politique est vraiment contrôlée et régulée par des personnes d'un certain âge, nous allons dire, avec des grandes logiques de parti. Donc c'est plus difficile pour faire émerger des nouvelles structures, des nouvelles approches et des nouvelles personnes.
Alors, avant de parler de la politique numérique française, on va plutôt parler de ce qui va se passer durant les prochaines semaines, puisque vous vous présentez aux élections cantonales pour le canton de Villeurbanne-Centre. Alors, comment vous avez eu cette idée déjà et quel est votre programme?
Comment vous avez eu cette idée? Eh bien, tout simplement, nous sommes un certain nombre de membres et de sympathisants du Parti Pirate sur Lyon. Nous avons formé donc une cellule locale, la cellule Rhône-Alpes du Parti Pirate, le Parti Pirate Rhône-Alpes. Et donc, comme nous sommes présents localement, nous essayons d'agir localement sur des thématiques qui sont proches de tous les citoyens, comme la vidéosurveillance, les impôts, la transparence. Donc, la présentation aux élections cantonales, c'est dans la continuité de nos idées, c'est pour sensibiliser les gens à nos actions et faire en sorte que nos idées puissent être portées à plus haut niveau. Même si nous sommes tout à fait réalistes sur nos perspectives électorales, au moins, nous nous lançons dans la bataille pour dire que nous existons et nous savons faire des choses et nous proposons des choses.
Alors, permettez-moi la réflexion. On a l'impression que c'est plus détendu. Par contre, le Parti Pirate a abordé la démocratie de manière beaucoup plus sérieuse avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Afrique du Nord. Est-ce qu'on a l'impression que la politique en Afrique du Nord, c'est du sérieux, et puis en France, c'est plus de la rigolade ?
Pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. En Afrique du Nord et dans divers pays arabes, il y a vraiment un phénomène de révolte, voire de révolution, avec du sang, des crimes. On parle même maintenant de crimes contre l'humanité en Libye. En France, on a plus des problèmes d'abus de biens sociaux et d'oligarchie. Donc, est-ce qu'on peut les mettre au même niveau ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, les problématiques sont certainement différentes.
Et par contre, est-ce que la politique française, est-ce que vous abordez cette politique française avec autant de sérieux que les autres partis ? Vous êtes plus dans l'expérimentation, dans la science, en fait ?
Le Parti Pirate est vraiment un parti jeune. C'est justement un des intérêts de participer à ce projet pour moi, c'est que je peux suivre depuis le début la mise en place d'un parti politique français qui ne soit pas juste une petite association ou un micro-parti qui sert à financer un homme politique. Puisque nous nous considérons comme un vrai parti politique avec des idées, des propositions, des actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2010, mettre en place un nouveau parti politique en France ? Nous le découvrons sur le terrain. Donc ça veut dire faire de l'expérience sur tous les dépôts de candidature. Qu'est-ce que ça veut dire monter un projet de candidature pour des élections cantonales, régionales, peut-être aussi nationales ? Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un programme, construire un budget, tenir un budget, mettre en place des idées, les faire tourner, les soutenir, les défendre, fédérer ? Il y a un aspect novateur, donc qui est très sérieux, du moins à mon sens, qui permet aux gens de s'impliquer dans la mise en place d'un nouveau parti politique et de prendre parti vraiment dans la vie citoyenne française sans être embrigadé, cantonné dans des partis politiques tendance jeune ou alors les jeunes avec François Hollande ou alors les jeunes pop. Bon, c'est très bien, mais quand on voit concrètement ce qui se passe sur le terrain, ce sont les jeunes pop au service de telle personne qui va prendre la direction du parti. Ou alors les jeunes que l'on envoie soutenir telle partie du programme impopulaire, ou alors que les élus n'y connaissent absolument rien. Donc en ce sens, nous considérons que nous sommes une véritable alternative à cette mise en place politique pour justement créer un parti qui soit beaucoup plus accessible pour les personnes jeunes, dynamiques, ou du moins qui ont une autre approche de la politique.
Vous parliez des jeunesses pop ou bien des jeunes avec François Hollande. La grande différence, c'est que eux ont des financements, les financements de papa-maman, hein, si on reprend un schéma classique. C'est-à-dire que le parti principal leur donne de l'argent. Vous
Et Liliane Bettencourt aussi.
Voilà, Tata Lili. Mais par contre, vous n'avez pas d'argent.
Nous avons le budget d'un petit parti politique qui se résume aux cotisations des membres, plus quelques dons qui n'existent pas encore pour le moment. Nous sommes en train d'ouvrir une boutique. Vous pourrez acheter des drapeaux, des t-shirts, des porte-clés, des badges, des flyers, tout ce que vous voulez à l'effigie du Parti Pirate, afin de soutenir nos candidats et de, par exemple, d'aider à payer l'impression des bulletins de campagne, des circulaires de propagande, des affiches. Les frais de déplacement du président, lorsque Paul doit aller par exemple à Strasbourg rencontrer des pirates allemands ou alors suédois, ou faire des déplacements un peu ailleurs en France. Donc en ce sens, oui, chaque personne du Parti Pirate met un petit peu la main à la poche pour faire avancer le parti. Nous n'avons pas de financement occulte, nous ne faisons pas d'abus de biens sociaux, nous n'avons pas de grand-mère qui nous donne des chèques dans tous les sens, donc oui, en ce sens, nous avons un petit budget, des petits moyens, mais nous avons beaucoup de motivation et nous avons Internet.
Donc vous avez Internet, mais en même temps, vous plaidez pour la transparence. Rassurez-moi, tous les dons, il y aura une transparence sur l'argent ?
Ah, naturellement. En tant que parti politique, de toute façon, nous sommes tenus d'avoir une comptabilité tenue et tracée, avec audition par des commissaires aux comptes. Donc c'est vraiment un parti politique qui est statué juridiquement au regard de la loi. Donc là-dessus, il n'y aura aucun problème. Nous sommes pour la transparence, il y aura la transparence. Au niveau des élections cantonales que nous mettons en place ici, Bastien est justement le mandataire financier pour cette campagne. Donc, ce sera lui qui s'assurera de la conformité du budget pour notre campagne.
Damien, vous avez une petite idée sur le budget global pour les cantonales ?
Bon, le budget actuellement, zéro.
Ça oui,
nous
tout à
semble
fait,
bien. Disons que les premières pubs, on va dire, qui ont été financées pour le Parti Pirate en Rhône-Alpes, ça a été des membres qui les ont faites. Là, on va voir comment on peut se débrouiller pour ces élections et inciter les gens à se déplacer.
Vous comptez sur Internet pour inciter les gens à se déplacer ?
C'est un petit peu compliqué. Le parti pirate cible principalement des personnes jeunes, informées, qui ont donc naturellement un accès privilégié à Internet par les réseaux sociaux ou les sites d'information. Nous avons déjà fait des distributions de tracts sur les marchés. Le retour d'expérience a été, nous dirons, mitigé. Les personnes âgées sont intéressées, polies, discutent un petit peu avec nous, mais on sent bien que spontanément, elles ne sont pas fortement impliquées par les problématiques qui nous touchent au plus près. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est intéressant de tracter, de distribuer des flyers dans la rue, mais ce n'est pas là où nous pourrons récolter le plus grand nombre d'électeurs. Notre principal cœur de cible, de toute façon, se trouve sur Internet, se trouve dans les universités, dans les milieux technologiques et vraiment dynamiques, orientés sur l'information. Donc c'est là-dessus que nous faisons principalement campagne. Pour vraiment optimiser notre énergie.
Vous avez un objectif en termes de voix, en termes de pourcentage ?
Oh, oui. Comme nous disons, si on fait 0,51%, ça sera vraiment un miracle. Donc, notre but actuellement, c'est de faire une candidature valide. C'est-à-dire déposer notre dossier de candidature, présentation au cantonal, le faire accepter nos bulletins et nos circulaires de propagande par la commission de propagande, faire une inscription de la règle de l'art pour que le jour de l'élection, les gens puissent trouver dans leur bureau de vote un bulletin du parti pirate qu'ils puissent prendre et glisser dans l'urne. Ça déjà pour nous, ça sera quelque chose de bien, parce que ça voudrait dire que nous avons réussi à mettre en place toute une logique d'élection locale. Nous avions déjà fait une tentative de présentation lors des élections précédentes, au régional. Malheureusement, notre candidature avait été refutée pour un problème de dossier. Donc cette fois-ci, nous allons essayer de faire mieux et de présenter une candidature qui soit valide. Le résultat ensuite, ça sera ce qui sera, mais ce qui compte, c'est de nous présenter de façon à pouvoir présenter publiquement nos idées et dire, voilà, nous existons localement sur Lyon. Nous sommes reconnus au niveau national. Au niveau local, les gens parlent un peu de nous. Nous sommes invités dans une émission de radio. La presse parle de nous. Mais tant qu'on n'a pas présenté une candidature vraiment, est-ce qu'on peut se considérer tout à fait comme un parti politique? Oui et non. Il n'est pas nécessaire d'être élu pour faire de la politique, mais c'est quand même mieux d'être capable de se présenter.
Donc déjà, l'achievement, pour reprendre un terme, ça sera vraiment de réussir à avoir ses bulletins, avoir son tract de propagande.
Oui, et de ne pas aller en prison ensuite.
Avec un budget de zéro, ça va être simple.
Alors, le budget électoral, effectivement, zéro. C'est-à-dire que sur le compte de campagne, nous visons le zéro, parce qu'ensuite, c'est chiant, il faut faire auditer le compte et tout, ça coûte une fortune. En revanche, tout ce qui est l'impression de bulletins, de circulaires de propagande et d'affiches n'est pas comptabilisé dans le budget de campagne. Donc ça, c'est de l'argent que nous allons avancer, nous allons dépenser. Si jamais on fait 5%, on sera remboursé, ça n'arrivera pas. Donc actuellement, nous sommes en train de voir avec un imprimeur en Allemagne pour justement imprimer ces différents éléments, les proposer à la commission de propagande qui va les approuver normalement.
Ah, vous rigolez depuis tout à l'heure en disant que vous allez peut-être faire 0,51%, ça sera bien. Mais en même temps, les élections cantonales, tout le monde s'en fout et la participation est souvent proche des 15%, 30%. Donc ça veut dire que d'un autre côté, si vous arrivez à mettre déjà les gens qui votent de votre côté, ça peut aller très vite.
Oui, chaque voix compte. Ça sera vraiment compté à la voix près. Une dizaine de voix peut déterminer un changement du pourcentage. Bon, ensuite, il y a peut-être d'autres micros objectifs, d'être par exemple devant des micro-partis ou alors des partis fantoches. Bon, ça on verra ensuite. Mais déjà, être présent dans les bureaux de vote le jour de l'élection, se faire accepter et d'avoir notre candidature acceptée, d'être publié au journal officiel disant « voilà, le parti pirate a eu tant de voix à telle élection », être présent sur la liste des personnes qui ont mis en place une candidature pour dire « voilà, nous existons aussi localement, c'est très humble, c'est très simple, mais nous sommes capables de mettre en place une candidature et de défendre nos idées », ça sera déjà quelque chose.
Et en termes de programme alors ?
En termes de programme, nous avons mis en place un programme axé sur des idées locales, pas spécifiques au cantonal, mais qui concerne vraiment toute la vie locale, aussi bien régionale que municipale que départementale. Avec des choses comme la transparence de l'information sur le principe de l'open data, Bordeaux s'y est mis, Paris s'y est mis, donc nous aimerions bien que Lyon s'y mette aussi, à savoir Dans les conseils municipaux, dans les administrations, il se passe des choses. Il y a des comptes rendus de réunions, il y a des rapports qui sont mis en place. Comment est-ce que les citoyens peuvent accéder à ces informations pour les lire, les consulter et donner des retours à leurs élus? Donc, dans une idée de transparence et de diffusion de l'information, ouvrir les données publiques, les rendre facilement accessibles dans des formats ouverts et standards, qui soient facilement traitables automatiquement, pour faire ensuite des traitements automatiques par les informaticiens. Là-dessus, nous avons des idées, nous avons des propositions qui sont très simples à mettre en place, comme par exemple mettre une webcam dans les assemblées des conseillers municipaux. Ça coûte absolument rien. Ça permettrait aux gens qui sont au travail ou chez eux, ou même qui rentrent chez eux le soir, de visualiser les débats qui ont eu place, de voir ce que disent leurs élus, leurs représentants, et donc de savoir ce qui se passe concrètement dans les conseillers municipaux. Qui est présent, qui n'est pas présent, qui propose quoi, comment. Donc ça coûte absolument rien, et ça va dans l'objectif de l'ouverture et de la transparence.
Est-ce que, alors là, c'est vous êtes assez calé sur tout ce qui est politique numérique, vidéosurveillance, surveillance des citoyens ou même transparence. Par contre, pour tout ce qui est économie, écologie, transport, est-ce que vous avez un programme ?
Sur le transport, nous avons quelques propositions sur la rationalisation des transports doux, à savoir les interconnexions pertinentes des pistes cyclables et des différents couloirs de bus. Ensuite, pour tout ce qui est les aspects économiques, travail, retraite, santé, nous n'avons absolument pas d'idée.
Comment vous faites dans ce cas-là ?
Eh bien, nous faisons comme les Verts au début, c'est-à-dire que nous avons des idées et des propositions sur nos domaines de compétences. Pour le reste, nous puisons dans les autres parties. Là où nous trouvons des choses qui nous intéressent, nous nous inspirons, nous reprenons, nous soutenons, nous dialoguons, et en retour, en échange, nous proposons nos idées, nous apportons nos propositions, nos contributions dans une idée de partage et d'échange. Nos programmes, nos idées ne sont pas protégés par des droits d'auteur.
Par contre, est-ce qu'il y a comme dans les licences libres, il y a obligation de paternité ? De dire où on a pris, par exemple, s'il y a un élu de gauche ou de droite vous pique une idée, doit-il donner la paternité, comme c'est le cas avec les logiciels libres ?
La paternité, non. Il peut tout à fait revendiquer l'idée comme sienne. En revanche, tel que notre programme, nos notes de programme sont diffusées actuellement, elles sont sous une licence libre, attribution et partage à l'identique. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tracer des éléments qui ont été repris. Mais c'est un point de détail. Parce qu'il faut voir aussi que les lois et les programmes électoraux, il me semble, ne sont pas protégeables par un copyright. Donc il y a des questions de législation là-dessus qu'il faut qu'on traite avec nos juristes au sein du Parti Pirate. Mais il y a peut-être encore 2-3 subtilités qu'il faut qu'on voit.
Mais honnêtement, si quelqu'un vient nous prendre notre programme, je pense pas qu'on ira l'embêter. On sera tout contents.
Oh oui, tout à fait. Nos idées sont là pour être reprises et partagées. Donc inspirez-vous, reprenez, elles sont libres.
Vous dites que vous allez piocher à droite à gauche. On est dans un pays de bipartisme. Hein. On doit tout de suite vous cataloguer à droite ou à gauche. Le Parti Pirate est-il de gauche ? C'est la grande question qu'on se pose en ce moment.
Le Parti Pirate n'est ni de gauche ni de droite. Il est devant. C'était Jean-Jacques Kerran, je crois, qui disait il y a quelques mois que le Parti Pirate est de gauche. Ça nous avait fait un petit peu sourire. Même s'il est vrai que le Parti Socialiste reprend quelques idées, propositions du Parti Pirate, ils ne vont pas suffisamment loin et ils ne s'attaquent pas vraiment au cœur des différentes problématiques que nous étudions. Donc en ce sens, non, on ne peut pas dire que le Parti Pirate est de gauche. Il n'est pas de droite non plus.
Par contre, la gauche a défendu certaines idées du Parti Pirate, bien ou mal. On se souvient des ninjas socialistes contre Adopi, ou bien récemment des recours devant le Conseil constitutionnel, où là, le Parti Pirate a reproché à la gauche de ne pas faire des recours jusqu'au bout.
Oui, le Parti Socialiste, pour sa saisie du Conseil constitutionnel, a repris des éléments du dossier qu'avait mis en place le Parti Pirate, mais on a oublié certains. Donc on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas grave, on va mettre une deuxième couche, et puis on va y retourner. À gauche, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très impliquées dans la défense des licences libres, de l'accès, du partage de la culture et de la connaissance. À droite, on en trouve quelques-unes aussi, mais on se heurte à différents niveaux, à des logiques de parti. C'est-à-dire que des députés vont ferrailler sur différents amendements, sur les projets de loi qui sont déposés par le gouvernement ou d'autres députés. Mais Ensuite, ils vont s'abstenir ou ils vont voter avec leur parti à l'encontre de leurs idées et de leurs convictions qu'ils ont défendues précédemment. Bon, il y a eu des reproches qui ont été faits à plusieurs députés en ce sens. Donc, on voit que la contestation a malgré tout une limite, la limite étant la logique des partis et ce que dit le chef.
Vous, aujourd'hui, même si on ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Afrique du Nord avec ce qui se passe en France, n'y a-t-il pas aussi beaucoup de choses à faire dans l'Hexagone ?
Au niveau national, oui. Au niveau local, les problématiques ne se posent pas vraiment pour nous. En tant que parti pirate Rhône-Alpes, nous sommes assez peu concernés par ces éléments-là, donc nous travaillons plus au niveau national sur ces questions. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, à commencer par discuter réellement. C'est-à-dire pas juste se rencontrer autour d'une table pour balancer des idées sans écouter l'autre, mais vraiment faire un travail de pédagogie, de didactique. C'est ce que nous allons mettre en place au niveau de la Hadopi, puisque nous avons un membre du Parti Pirate qui a été embauché par la Hadopi en tant qu'expert conseil. Donc, une des idées est justement de mettre en place au sein de la Hadopi, pour les différents membres de cette haute autorité et des parlementaires qui voudraient y participer, des séances de présentation, de formation sur qu'est-ce que c'est le net, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité du net, quels sont les contenus managés, qu'est-ce qu'on appelle un contenu managé. Donc là-dessus, il y a vraiment un travail de pédagogie qui se met de plus en plus en place. Ça prend du temps, parce que c'est du travail de spécialiste, ça demande de l'expertise. Tout le monde ne peut pas entrer dans le débat immédiatement et prendre des décisions. Il y a vraiment une étape de formation et d'apprentissage pour vraiment comprendre les enjeux et tout ce qui tourne autour de cette problématique du numérique. Donc c'est un travail de longue haleine. Ça a commencé à se faire, ça se fait, ça va poursuivre, mais il faut juste un petit peu de temps. De toute façon, personnellement, je dis que le temps est notre allié sur ces questions-là, puisque la vie politique en France est assez âgée, les personnes dans les conseils d'administration sont âgées, les élus sont assez âgés, donc assez naturellement, avec la fin du baby-boom, le renouvellement des générations, ces personnes-là vont partir et d'autres personnes vont prendre leur place. Donc avec le temps, ça va aller mieux.
Par contre, j'ai envie de vous contredire deux secondes. Vous êtes en train de dire que ces gens-là vont partir, mais on se rend compte, par exemple, avec j'ai oublié son nom, mais le leader des jeunesses pop UMP,
Benjamin Lancard.
Merci.
Il est magnifique.
Voilà,
on l'adore.
Il est magnifique. C'est quelqu'un qui est amené à gouverner bientôt. Voilà.
J'espère pas.
Ça c'est votre avis. Mais en termes de numérique, il défend le discours de papa et maman.
Il défend le discours de l'UMP.
Ouais.
Voilà. Le discours de l'UMP, actuellement, nous avons récupéré à l'économie numérique Besson. Besson, qui est fortement réputé pour ses hautes compétences dans le domaine du numérique. C'est pas gagné.
Mais Besson est un personnage typiquement geek, hein. Il aurait pu être dans un Star Wars.
Oui. On essaye au niveau de Benji. Paul, le président du Parti Pirate actuellement sur Paris, a invité publiquement Benjamin Lancard via Twitter pour prendre un café et lui expliquer les enjeux du numérique. Puisque Benjamin a déclaré qu'il était en faveur d'Internet et qu'il y avait un mouvement de réappropriation du net qui se faisait par l'UMP. Donc Paul lui a proposé un café pour en discuter. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de réponse de la part de Benji. Donc Benji, si tu nous écoutes, va prendre un café avec Paul.
Mais ne fais pas de lip dub, s'il te plaît. Ou alors paye tes droits d'auteur avant.
Oui. Mais ensuite, cette question de conflit générationnel, elle n'est pas partagée par tous les membres. On peut en discuter, on en discute. Je sais que Bastien a un autre avis là-dessus au niveau des générations, surtout au niveau de l'économie numérique. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert pour nous. Nous en discutons, mais il y a pas consensus, hein, et c'est pas un problème. Nous avons eu récemment un débat avec le cercle de réflexion des jeunes radicaux de gauche à propos de l'économie numérique et de l'Hadopi. Avec le rôle des libraires et des éditeurs dans l'économie actuelle. Donc, pour moi, une des vraiment des points clés de l'économie numérique, c'est le renouvellement des générations, avec justement la transition d'un public plus âgé vers un public plus jeune, plus aguerri des nouvelles technologies, qui sera plus à l'aise pour lire sur des terminaux mobiles, travailler avec des œuvres numériques dématérialisées. Donc oui, en ce sens, des libraires peuvent être amené à disparaître suite à l'évolution du livre numérique, de la même façon que la voiture a tué le maréchal Ferrand. Ce n'est pas forcément un problème, puisqu'il y a une évolution à se mettre en place. Donc moi, j'y vois des origines générationnelles plus que de modèles économiques, mais il n'y a pas consensus. Hein.
On va finir ce podcast en continuant de parler de politique nationale. On se rend compte que l'un des partis les plus présents sur le net et l'une des mouvances les plus présentes sur le net, c'est l'extrême droite, qui s'en sort plutôt pas mal sur le net. Qu'est-ce que vous avez comme jugement à faire sur ce parti qui a su coloniser Internet alors que les partis classiques n'ont pas réussi?
Si je regarde le Front National, c'est vrai qu'ils ont une très jolie présence sur le net à travers de leur boutique. Le FN sur le net, c'est une gigantesque boutique, c'est Amazon. C'est l'Amazon du Front National. Vous avez des pins, des porte-clés. Je ne sais pas si vous avez vu les serviettes de plage Front National. Ou alors les médailles, les briquets avec décapsuleurs intégrés. Donc c'est absolument magnifique. Ils ont une très jolie boutique que nous leur envions beaucoup. On va essayer de faire la même chose.
Il y a quand même un organe de revue de presse d'extrême droite. C'est important.
Ouf, allez, on va dire que c'est comme la pédopornographie, si on la cherche pas, on tombe pas dessus.
Merci Damien, merci Bastien. Bon courage aux élections cantonales.
Merci.
Vous vous présentez donc avec une suppléante.
Gwendoline Deslien.
Qui n'est pas là aujourd'hui.
Non, elle est en déplacement en Argentine.
D'accord.
Donc elle s'excuse.
N'y a pas de problème. Bastien, tenez bien les comptes, hein, sinon Lyon Capital surveillera.
Pas de souci, je vous enverrai ça.
Puis bon courage pour les élections. Ça a été détendu, mais c'est quand même quelque chose de sérieux. Et puis, bien sûr, c'est la première étape vers d'autres candidatures.
Oui. Au niveau local, oui. C'est clair que nous renouvrons l'expérience. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive. Nous trouvons un soutien auprès de différentes associations, auprès de différentes structures et groupements de gauche. Nous avons beaucoup de sympathisants parmi les universitaires et parmi les jeunes militants du milieu associatif, aussi bien au niveau de la friche RVI que des mouvements plus anarchistes. Donc, nous les accueillons, nous sommes très sympas, nous organisons des apéros, nous discutons avec eux, mais c'est quelque chose que nous allons poursuivre, en tout cas l'aventure localement.
Merci Damien, merci Bastien, au revoir.
Game over.